Je ne sais pas vous comment vous étiez quand vous étiez jeune. Moi, j'étais plutôt plein d'énergie et j'ai canalisé une partie de cette énergie en faisant des sports de combat. Et parmi ces sports de combat, j'ai fait probablement le plus violent des sports, la boxe thaïlandaise. En boxe thaïlandaise, tous les coups sont permis. C'est vraiment un sport de brute, si on peut dire, à la force de votre adversaire, vous opposez votre propre force. Et ceux qui gagnent, ce sont ceux qui sont les plus agressifs, ceux qui frappent le plus fort, ceux dont les os sont les plus résistants. Et c'est ce qui compte dans ce sport, il n'y a pas d'éthique. La seule chose qui compte, c'est d'anéantir votre adversaire. Peu importe les moyens, seul le résultat compte. Et aux antipodes de ce sport de combat, il y en a un autre qui est l'aïkido. Alors, en aïkido, il ne s'agit pas d'anéantir votre adversaire, mais plutôt de réduire ses attaques à néant, de faire en sorte que ses attaques échouent. Et là, on ne cherche pas à imposer sa propre force à son adversaire, mais plutôt on va chercher à utiliser la force de l'adversaire. Et plus votre adversaire est fort, plus il est puissant, plus il est en mouvement, et plus vous disposez de moyens pour le vaincre en utilisant sa propre force. Donc le but de ce sport de combat, c'est de viser à rendre inefficaces les attaques. Il utilise la feinte, l'esquive, mais surtout l'art de détourner à votre profit les mouvements de votre adversaire. Alors, vous ne faites peut-être pas de sport de combat, mais savez-vous que cependant, vous êtes engagé dans un combat. En tant que chrétien, nous sommes engagés dans un combat spirituel. Grandir à la ressemblance de Christ et rester attaché à lui, quoi qu'il arrive. Et nous avons un adversaire, Satan. Et Satan va tout faire pour nous empêcher de grandir à la ressemblance de Christ et pour faire en sorte de nous détacher de lui. Alors, nous pensons parfois que la technique de combat que Satan utilise consiste à s'opposer à nous violemment. C'est probablement ce que Satan aimerait faire, s'attaquer directement à nous. Mais cette technique de combat n'est pas très efficace, parce que si jamais nous allons de l'avant avec Christ, alors cela signifie que Christ est avec nous. Et selon Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, si Dieu nous précède, Satan n'est pas de taille. Aussi, Satan utilise souvent une forme de combat beaucoup plus subtile, celle-ci. Si Satan ne parvient pas à nous arrêter, Satan va au contraire nous pousser en avant. Il va chercher à se servir de nos propres forces, de nos propres désirs, pour nous faire aller trop loin, ou bien pour nous faire aller de côté, et ainsi de nous déséquilibrer et de nous faire chuter dans notre marche avec Dieu. Et c'est une technique d'autant plus efficace que, bien sûr, le côté où il va nous faire pencher, c'est déjà le côté où nous avons naturellement tendance à aller. Donc nous ne posons pas de résistance au côté où nous avons déjà tendance à aller. Nous voulons aller de l'avant, suivre Christ. Mais combien de chrétiens se retrouvent loin de leur Seigneur parce qu'ils ont perdu l'équilibre dans leur marche avec Dieu? Ils voulaient aller de l'avant, mais dans leur élan, ils sont allés trop loin, là où Christ n'était plus. Ou bien, ils sont partis de côté et ils sont tombés. Et ça, ce n'est pas ce que nous voulons, n'est-ce pas? Si nous voulons marcher avec Dieu et grandir à la ressemblance de Christ, il nous faut développer une foi équilibrée. La marche avec Dieu passe par l'équilibre. Je vais, au cours des prochains mois, faire plusieurs prédications qui vont aborder la question de l'équilibre dans la marche avec Dieu. Équilibre indispensable si nous voulons suivre Christ. Et la prédication de ce matin a pour titre « À la recherche de l'équilibre, adorons Dieu en esprit et en vérité ». Une petite erreur de manipulation, mais c'est pas grave. Adorons, le titre est écrit sur votre feuille. Si nous voulons suivre Christ, nous devons marcher par l'Esprit, mais nous devons aussi marcher selon la vérité. L'un ne va pas sans l'autre. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, et si vous n'en avez pas, il y en a au fond, la même édition que celle-ci, au livre de Jean et au chapitre 4. Jésus traverse la région de Samarie et autour d'un puits, il rencontre une femme et une discussion s'ensuit. Et si vous avez cette édition-là, c'est à la page 689 de cette édition. Et je lirai les versets 20 à 24. Et c'est la femme qui parle à Jésus. « Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Les versets 23 et 24 nous indiquent quelles sont les deux conditions que nous devons remplir pour être véritablement des adorateurs de Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas l'esprit sans la vérité. Ce n'est pas la vérité sans l'esprit, mais c'est l'esprit et la vérité. Nous ne serons pas un vrai adorateur, un véritable adorateur, si jamais il nous manque un des deux. Le premier déséquilibre auquel nous devons prendre garde, c'est de trop pencher du côté de l'esprit. Je me demandais si cette phrase allait vous faire réagir. Le déséquilibre de trop nous pencher du côté de l'esprit. Est-ce que le pasteur est en train... Alors je me méfie parce que comme c'est enregistré, cette phrase-là, on peut la découper, hop, vous l'envoyez, à d'autres églises et voilà ce qui est prêché dans notre église. J'ai effectivement dit que l'on pouvait trop pencher du côté de l'esprit, mais je n'ai pas précisé de quel esprit il s'agissait. Alors soyez rassurés, nous ne pencherons jamais trop du côté du Saint-Esprit. Nous devons au contraire tout mettre en œuvre pour être entièrement animés et conduits par le Saint-Esprit. Jamais nous ne serons trop remplis, conduits et soumis au Saint-Esprit. Mais le déséquilibre dont nous devons nous méfier, c'est de trop pencher du côté de notre esprit. Esprit avec un petit e. Et c'est de négliger de marcher selon la vérité. Il y a quelque temps, j'avais prié pour un homme, et cet homme disait qu'il voulait se consacrer entièrement au Seigneur. Il voulait mieux l'aimer, mieux le servir, mieux l'honorer. Et conduit par l'Esprit, il a décidé de mettre cela en pratique. Il a donc décidé de quitter sa femme et ses enfants. Cet homme avait le désir de suivre Jésus et il a suivi ce que l'Esprit lui disait de faire. Mais quel esprit cet homme suivait-il ? L'Esprit de Dieu ? Certainement pas. C'est son esprit à lui qu'il suivait, pas l'Esprit de Dieu. Comment cet homme qui aimait Jésus, cet homme qui voulait le suivre, a-t-il pu confondre la voix de son propre esprit avec la voix du Saint-Esprit ? Cet homme a confondu son propre esprit avec l'Esprit de Dieu parce qu'il était déséquilibré dans sa marche avec Dieu. Cet homme pensait marcher par l'Esprit de Dieu, mais il n'était pas fondé sur la parole de Dieu, la vérité. Parce que si cet homme avait été fondé dans la vérité, jamais il n'aurait cru que Dieu lui demandait de quitter sa femme et ses enfants. Parce que la parole de Dieu nous dit, Éphésiens 5, 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Et 1 Timothée 5, 8, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces paroles. Nous voulons marcher par le Saint-Esprit ? Eh bien, le Saint-Esprit nous dit comment faire. Et pour cet homme, c'était d'aimer sa femme et de prendre soin des siens. Parce que la foi de cet homme n'était pas éclairée par la vérité, par la parole de Dieu, eh bien, sa marche avec Dieu n'a pu trouver l'équilibre. Et il s'est mis à confondre les pensées de ses propres désirs avec les pensées de Dieu. Nous voulons adorer Dieu ? Eh bien, alors soyons fondés dans la parole de Dieu. Et étudions la Bible et mettons en pratique ce qu'elle contient. Par sa parole, Dieu veut nous éclairer. Il veut nous conduire. Par sa parole, Dieu veut nous fortifier. Il veut nous faire grandir. Il veut nous bénir en évitant que nous fassions les mauvais choix et de partir sur un mauvais chemin. Par sa parole, il veut nous éviter de tomber, de nous faire mal et de faire mal aux autres. Si nous nous imaginons que nous pouvons adorer Dieu par l'Esprit, en négligeant d'étudier la parole de Dieu, eh bien nous allons au-devant d'un désastre. À la femme samaritaine, Jésus dit au verset 22, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Et il rajoute, « Nous adorons ce que nous connaissons. » Il ne suffit pas de dire « j'aime Dieu » pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu, il nous faut le connaître. Moi, ça me fait bizarre. Vous savez, nos enfants reçoivent un certain nombre de journaux pour enfants. Et puis, par exemple, là, nos filles, elles rêvent parce que, donc, je ne sais plus, l'héroïne de Harry Potter reçoit par jour une centaine de demandes de mariage. Oh ! Qu'est-ce qu'elle est aimée, cette fille ! Est-ce que vous croyez réellement qu'elle est aimée, que ceux qui lui demandent de l'épouser sont des garçons qui la connaissent, ne la connaissent pas. Ils projettent sur elle des tas de choses. On ne peut pas aimer quelqu'un qui ne nous connaît pas. Et Pensez même des fois à vous-même. Est-ce que des fois, moi ça m'est déjà arrivé, cette souffrance lorsque vous constatez que vous ne voulez pas être connu de quelqu'un d'autre. Vous écrivez une lettre à quelqu'un, la personne ne prend pas la peine de la lire. Et bien sûr, on l'interprète comment ? Cette personne ne s'intéresse pas réellement à nous. Pour aimer quelqu'un, il nous faut le connaître. Pour aimer notre Dieu, il nous faut le connaître. Et par sa parole, Dieu se fait connaître à nous. C'est la lettre d'amour que Dieu nous adresse. Nous avons besoin de connaître Dieu pour marcher avec lui. Alors nous avons en nous toutes sortes de sentiments, de projets, d'intuitions, de convictions. Mais comment savoir si cela vient seulement de nous ou bien si cela vient de l'Esprit de Dieu ? En connaissant la vérité et en étant fondé sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, dans son ensemble, a été écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une juste manière de vivre. » Le Saint-Esprit et la vérité vont ensemble. Ils sont indissociables. Nous croyons que l'Esprit de Dieu nous pousse à faire telle et telle chose. Eh bien, ouvrons la parole de Dieu. Lisons et étudions-la. Et si jamais nous trouvons quoi que ce soit dans la parole de Dieu qui va à l'encontre de nos projets, alors nous avons là un signe que nos projets ne viennent pas de Dieu. Dieu ne se contredit pas. Pour être en mesure de discerner ce que nous dit l'Esprit de Dieu avec un grand E, il nous faut connaître la vérité, la parole de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Le second déséquilibre dont nous devons nous méfier, c'est de trop nous pencher du côté de la vérité. Du côté de la parole de Dieu. Ah, ça y est, il est devenu fou ce coup-ci. Ah, il dit n'importe quoi. Tout à l'heure, il nous dit, voilà, il faut qu'on soit fondé sur la parole de Dieu. Et maintenant, c'est un danger de trop nous pencher sur la parole de Dieu. Eh bien non, nous pouvons trop pencher du côté de la parole de Dieu. Mais là aussi, il nous faut préciser. Il me faut préciser ce que je veux dire. Nous pouvons et nous devons même étudier, comprendre, connaître la parole de Dieu. Il n'y a aucun risque à cela. Mais si jamais nous étudions la parole de Dieu, sans être conduits par l'Esprit de Dieu, nous allons là aussi nous casser la figure et nous éloigner de Jésus. Nous devons étudier la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu. J'ai été troublé lorsque je faisais mes études à l'Institut biblique de Nogent d'apprendre que le doyen d'une faculté de théologie était athée. Alors, faculté de théologie non évangélique. Dans notre milieu, ce ne serait pas possible. On ne peut pas enseigner et avoir des responsabilités dans ces instituts sans être converti. Mais moi qui avais soif d'étudier la parole de Dieu, j'avais tendance à mettre en parallèle, plus on étudie la parole de Dieu, plus on marche avec Dieu. Et là, j'apprenais que doyen d'une faculté de théologie, et ça veut dire que quand vous êtes reconnu comme doyen d'une faculté de théologie, vous avez un sacré bagage. Et lui-même se reconnaissait comme étant athée. Cet homme étudiait la parole de Dieu, mais n'était pas animé par l'Esprit de Dieu. Si Satan ne parvient pas à nous empêcher d'avancer avec Dieu, il fera tout pour essayer de séparer notre connaissance de la parole de Dieu de notre marche avec l'Esprit de Dieu. Et si nous avons tendance à être un petit peu légalistes, ou si nous aimons les choses bien nettes, bien carrées, nous risquons de nous raccrocher à la parole de Dieu au détriment de la marche par le Saint-Esprit. La Bible devient en quelque sorte notre idole. Elle remplace notre intimité, notre communion avec Dieu. Alors si nous sommes des experts de la parole de Dieu, c'est formidable. Et je vous encourage à le devenir. Mais pour être un véritable adorateur de Dieu, il est aussi indispensable que nous soyons, en plus de notre connaissance, remplis par l'Esprit de Dieu. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons dans une attitude d'humilité et de soumission à Dieu. Prions pour que Dieu nous éclaire. Soyons prêts à entendre ce qu'il veut nous dire. Acceptons que Dieu nous remette en question et accomplissons ce qu'il nous demande. Par son esprit, Dieu vient jusqu'à nous. Par son esprit, Dieu vit en nous. Par son esprit, Dieu veut nous rendre la liberté. Il veut guérir notre cœur de nos blessures et nous rendre capables d'aimer. Il veut libérer nos pensées de la peur et du mensonge. Il veut nous rendre capables de marcher selon la vérité. Nous ne pourrons pas adorer Dieu selon la vérité si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu. Alors, dimanche dernier, Jean-Pierre a prêché sur le fruit de l'Esprit. Eh bien, si nous possédons la connaissance de la parole de Dieu, mais que nous ne portons pas le fruit de l'Esprit, eh bien, notre marche avec Dieu va être déséquilibrée et nous allons nous casser la figure, mais aussi faire du mal autour de nous. 1 Corinthiens 13:2 nous dit « Si j'ai la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Si je n'ai pas l'amour, fruit de l'esprit, je vais voir les fautes des autres grâce à ma connaissance de la vérité. Et je vais les condamner au lieu de les aider. Je vais les mépriser au lieu de les aimer. Et je vais me considérer comme supérieur. 1 Corinthiens 8:1, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si je veux utiliser la parole de Dieu pour faire grandir les autres, je dois porter le fruit de l'Esprit et en particulier l'amour. Éphésiens 4:15, en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, Christ. Si je n'ai pas la paix, fruit de l'Esprit, si je n'ai pas la paix dans mon cœur, qu'est-ce que je vais faire par rapport aux autres chrétiens qui ne sont pas dans la vérité? Je vais les affronter. Et au lieu d'accueillir mes frères et sœurs, je vais diviser le corps de Christ. Pourtant, Romains 4:1 nous dit « Faites accueil à celui qui est faible dans la foi. » Et quand vous avez la connaissance, celui qui est faible dans la foi, c'est toujours l'autre. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Si je n'ai pas la patience, fruit de l'esprit, je vais voir ce qui ne va pas chez l'autre. Et s'il ne change pas immédiatement, je vais le rejeter. L'œuvre de Dieu dans les cœurs s'inscrit dans le temps. Si je n'ai pas la bonté, la douceur, la bienveillance, je vais utiliser la parole de Dieu, oui, mais pour quoi faire? Pour briser, pour anéantir mon prochain. La parole de Dieu est une arme. Si nous l'utilisons et que nous ne sommes pas animés par l'amour de notre prochain, alors nous allons faire beaucoup de dégâts et de mal avec cette arme. N'utilisons l'arme de la parole de Dieu que si nous sommes motivés par l'amour. L'amour pour Dieu mais aussi l'amour à la personne à laquelle nous allons nous adresser. Si je n'ai pas la maîtrise de soi, là je vais utiliser la parole de Dieu, mais alors selon mes impulsions. Je vais utiliser la parole de Dieu à tort et à travers pour justifier ce que j'ai envie de faire. Je vais détourner des passages de la parole de Dieu et leur faire dire non pas ce que le Saint-Esprit a révélé, mais ce que mon propre désir veut faire comprendre aux autres. Par exemple, moi je vais citer « Femme, soyez soumise à votre mari !» lorsque je voudrais que ma femme accomplisse ce que j'ai envie. Je vais aussi citer « Il faut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes !» lorsque je n'aurais pas envie d'obéir aux lois, je sais pas, de payer mes impôts ou d'obéir à mon supérieur. Oh non, Dieu m'a dit que non. Ce sont des citations bibliques. Mais c'est seulement en étant soumis à l'Esprit de Dieu, dans une attitude de soumission à l'Esprit de Dieu, que j'utiliserai la parole de Dieu à bon escient. N'oublions pas que Satan en personne à citer la parole de Dieu pour essayer de faire chuter Jésus. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. J'ai un fichier complètement désorganisé, mais c'est pas grave. Nous voulons suivre Jésus, n'est-ce pas? Nous n'avons pas envie de nous éloigner de lui. Nous n'avons pas envie de tomber dans notre marche avec lui. Nous voulons adorer Dieu. Alors prenons garde à ne pas tomber. Ayons une foi équilibrée. Étudions sa parole, prenons connaissance de la vérité et appliquons-la à notre vie. Mais soyons aussi à l'écoute, soyons réceptifs à l'Esprit de Dieu et soumettons-nous à lui. Seigneur, non pas ce que je désire, mais ce que tu désires. Et alors, nous pourrons adorer notre Dieu en esprit et en vérité. Je vous invite à un temps de prière. Seigneur Dieu vivant, je te suis mille fois reconnaissant que le salut que tu m'as offert est un salut par grâce. Tu m'as sauvé, Seigneur, alors que j'étais pécheur, et tu continues à me sauver alors que je suis pécheur, malgré moi. Oh Seigneur, pardon pour toutes les fois où, malgré notre amour pour toi, nous nous éloignons de toi. Nous avons peut-être manqué de discipline, manqué de priorité, de faire les bonnes priorités dans notre vie pour passer du temps avec toi, dans la prière, dans l'écoute, dans l'étude de ta parole. Mais Seigneur, merci, parce que tu es un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu qui veille sur nous, et par ta parole, nous avons un guide qui est fiable. Et par ton esprit qui est en nous, nous avons aussi un guide fiable qui nous accompagne. Ô Seigneur, fais de nous de véritables adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité. Merci notre Dieu d'être ce Dieu de grâce, ce Dieu qui nous accompagne, ce Dieu qui nous précède. Gloire te soit rendue. Amen. Je vous invite à un chant. Ce chant qui nous dit: nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Et savez-vous où est le temple de Dieu maintenant? Exactement, il est là. Nous sommes, toute personne qui a donné sa vie à Jésus, a reçu l'Esprit de Dieu et maintenant est devenue le temple de Dieu, là où est la présence de Dieu. Je vous invite à chanter maintenant.